France Musique. Musicopolis. Février 1686, Paris. Ce n'est pas à Paris que Lully aurait voulu faire représenter son nouvel opéra, mais à Versailles. Malheureusement, une série d'empêchements a fait que finalement, Armide est donné pour la première fois à l'Académie royale de musique, au Théâtre du Palais Royal, à Paris. C'est un immense succès. Et dans la préface de sa partition quelques mois plus tard, le compositeur le rappelle. « De toutes les tragédies que j'ai mises en musique, voici celle dont le public a témoigné être le plus satisfait. C'est un spectacle où l'on court en foule. Et jusqu'ici, on n'en a point vu qui ait reçu plus d'applaudissements. » Un témoin rapporte quelques jours après la première d'Armide à quel point la foule s'est précipitée au Palais Royal. Il y eut un si grand monde qu'on ne pouvait plus y entrer du tout et plus de 100 personnes étaient sur le théâtre à un louis chacun. Toutes les loges pleines de 10 personnes. Vous savez que 7 les remplissent et sont déjà incommodes. L'amphithéâtre et le parterre et le paradis étaient si confusément remplis qu'on ne pouvait sans étonnement comprendre la quantité du monde qui y était. On prétend que Lully reçut ce jour-là 10 000 francs. Il était si en colère à cause de la cohue qu'il battit tous les valets et n'eut pas la force de souper. Parce que sur les 7 heures, il avait fait collation et avait tout seul mangé une bonne poularde et la moitié d'une seconde et n'avait bu que 4 ou 5 coups. Le pauvre homme faillit tomber en faiblesse après cela. Après l'ouverture à la française comme il se doit, avec ce qu'il faut de solennité et d'énergie, voici le prologue conçu par le dramaturge Philippe Quinault, librettiste de Lully depuis près de 15 ans. Armide est en effet une tragédie en musique. Elle va donc se composer, comme il se doit, d'un prologue et de 5 actes. Dans le prologue, qui précède l'action proprement dite, l'idée est avant tout de célébrer le roi. Deux personnages allégoriques, la gloire et la sagesse, vont y rivaliser de compliments à l'adresse du monarque pour chanter la douceur de ses lois et ses glorieux exploits.
Chantons, chantons la douceur de ses lois. Chantons, chantons ses glorieux exploits.
Chantons, chantons la douceur de ses lois.
Voici déjà plusieurs mois que le nouvel opéra se prépare. D'Anjou, le premier valet de chambre du roi, écrit dans son journal en date du 16 mai 1685 « Quinault apporta au roi, chez Madame de Montespan, 3 livres d'opéra pour cet hiver. L'un était Malaric, fils d'Hercule, le second Céphale et Procris, le troisième Armide et Renaud. Le roi les trouva tous trois à son gré et choisit celui d'Armide. Une fois le choix fait, Kino s'est mis au travail, qu'il a apporté ensuite à Lully. Dans sa comparaison de la musique italienne et de la musique française, Le Serre de la Vieille Ville, un magistrat qui a beaucoup écrit sur la musique, a raconté comment se passait la collaboration des deux hommes. Lorsque Kino lui apportait les vers qu'il avait déjà soumis à l'approbation de la petite académie, Lully examinait mot à mot cette poésie déjà revue et corrigée, dont il corrigeait encore ou retranchait la moitié lorsqu'il le jugeait à propos. Il fallait que son poète s'en retournât rimé de nouveau. À la fin, Kino se mordait si bien les doigts que Lully agréait une scène. Lully la lisait jusqu'à la savoir presque par cœur. Il s'établissait à son clavecin, chantait et rechantait les paroles, battait son clavecin et faisait une basse continue. Quand il avait achevé son chant, il se l'imprimait tellement dans la tête qu'il ne s'y serait pas mépris d'une note. L'alouette ou Colas, ses secrétaires, venaient, auxquels il le dictait. Nous avons entendu chanter ici le personnage d'Armide. C'est la scène d'exposition et elle annonce bien la couleur. Elle a triomphé de tous ses ennemis, sauf du plus vaillant de tous, l'indomptable Renaud. Elle éprouve pour lui une haine violente et elle ne veut pas manquer la conquête d'un cœur si superbe et si grand. Haine, violence, colère, dépit, désir, en quelques vers, Armide nous révèle la complexité de ses sentiments. Tout l'art de Kino et Lully va être de faire évoluer leur héroïne durant les 5 actes pour accrocher le spectateur, qu'il ne puisse plus se détacher de la tourmente amoureuse dans laquelle elle est petit à petit plongée.
Un songe affreux m'inspire une fureur nouvelle contre ce funeste ennemi. J'ai cru le voir, j'en ai frémi, j'ai cru qu'il me frappait d'une tête mortelle. Je suis tombée. Cruel vainqueur, rien ne fléchissait sa rigueur, et par un joli vol, je me sentais contrainte à le trouver aimable dans le fatal moment qu'il me perçait le cœur.
Pour interpréter le rôle d'Armide à la création en 1686, Lully s'est adressée à Marthe Le Rochois, l'une des plus grandes chanteuses de l'Académie royale de musique. Titon du Tillet, le chroniqueur, raconte « Quand elle commençait à chanter, on ne voyait plus qu'elle sur la scène. C'est ce qui m'a frappée, surtout dans l'opéra d'Armide, dans lequel elle jouait le plus grand et le plus fort rôle de nos opéras. Elle y paraissait dans le premier acte, entre les deux plus belles actrices et de la plus riche taille qu'on ait vue sur le théâtre, Mesdemoiselles Moreau et Desmatins, qui lui servait de confidente et qui cherchait à la dissiper de la tristesse où elle paraissait plongée. Dès le moment que Mademoiselle Rochois ouvrait les bras et qu'elle levait la tête d'un air majestueux en chantant « Je ne triomphe pas du plus vaillant de tous », ces deux confidentes étaient pour ainsi dire éclipsées. On ne voyait plus qu'elles sur le théâtre et elles paraissaient seules le remplir.
L'amour mène et roule dans mes fers, je suis depuis l'amour.
dalla gloire cruelle dei mochi fè votre volere. Vorremmo volesi dalla gloire cruelle dei mochi fè votre volere. Ne faremo, saremo tre felicite, di volere d'aramo fidele. Ne faremo, saremo tre felicite, di volere d'aramo fidele.
Si je dois m'engager un jour, au moins faut te déplore, qu'il faudra que ce soit la gloire, et livre mon cœur à l'amour, pour devenir mon maître. Si mes potes c'est très roi, ce sera la valeur qui me fera connaître, celui qui mérite ma foi, le vainqueur de Renaud, si quelqu'un le peut être, sera digne de moi.
À la création d'Armide, il n'y a que peu d'années que la tragédie lyrique est née en France. Lully, d'abord très réticent à l'opéra chanté en français, a constaté le succès remporté par le premier véritable opéra français, Pomone de Cambert, en 1671. En homme d'affaires avisé, il a tout fait pour devenir propriétaire du privilège de représenter ce genre d'ouvrage. Puis, en compositeur de génie, Lully s'est mis en devoir de créer une nouvelle forme de spectacle, entièrement à la gloire de Louis XIV, dont il est le surintendant de la musique. Un spectacle qui, à la fois, met en scène la politique royale, lui permet à lui, Lully, de s'enrichir, et enfin, lui permet de s'exprimer en établissant un nouveau genre, une forme d'art total, avec théâtre, musique, danse et machine. En établissant la tragédie lyrique, Lully a, du même coup et pour plus d'un siècle, mis en place un certain nombre de règles et de codes. On commence par une ouverture à la française, avec tout ce qu'il faut de solennité. On fait chanter les personnages avant tout dans l'idée de comprendre ce qu'ils disent, même si le livret est vendu dans la salle pour augmenter les ressources en produits dérivés. On glisse dans chaque acte un divertissement dansé qui mettra en valeur danseuses et danseurs de l'Académie royale, et que le librettiste doit s'arranger pour mettre en situation au milieu de l'action. On prévoit des décors magnifiques, qui changent à vue, des apparitions et disparitions de personnages, dans les airs, dans les fosses, grâce à des machines du dernier cri de la technologie. Et puis, on dispense quelques situations obligées, comme par exemple une scène de sommeil, qui donne lieu à la plus douce et voluptueuse musique imaginable.
Thank you.
On dit que Duménil, le ténor à qui Lully confie le rôle de Renaud dans Armide, est un beau brun, bien fait et d'une physionomie extrêmement noble. Il est malheureusement très peu doué en musique et il faut lui apprendre ses rôles note à note. Néanmoins, il touche de nombreux cœurs dans le public. Et il fait certainement un Renaud suffisamment crédible pour suspendre le bras de Marthe le Rochois en Armide lorsqu'elle le voit enfin à sa merci et qu'elle s'apprête à le poignarder. Le monologue d'Armide, « Enfin, il est en ma puissance », est l'un des passages de l'opéra les plus appréciés par les contemporains. On dit que pour mettre les mots en musique au plus près de la parole, Lully est allé écouter déclamer la Champmêlée, la très grande interprète de Racine. Puisqu'en effet, c'est de déclamation qu'il s'agit et non pas de la parole du quotidien. Ce sont ce débit et ces inflexions très particuliers du français que Lully, qui pourtant a gardé son accent italien, met en note avec une grande fidélité. Je le disais en introduction, c'est à Versailles que Lully aurait voulu créer son Armide. À Versailles et devant le roi. Mais depuis quelque temps, le genre de l'opéra est lui-même en défaveur à la cour. Madame de Maintenon et le parti des dévots jugent que c'est un genre licencieux et de surcroît très coûteux. Le roi ferait mieux de consacrer son argent à des œuvres pieuses. D'autre part, un an plus tôt, en janvier 1685, un scandale de mœurs a été révélé. Lully avait débauché un jeune page qui lui avait été confié et dont il devait faire l'éducation musicale. Le page a été envoyé en prison et Lully est entré en disgrâce. Alors que jusqu'à présent, Louis XIV et la cour avaient la primeur de ses pièces à Versailles avant que les Parisiens ne puissent en profiter, cette fois-ci, la première d'Armide a lieu à Paris.
Amour, sors pour jamais, sors d'un cœur qui te chasse, laisse-moi régner en ta place, tu fais trop souffrir sous ta loi.
Thank you.
Dans la préface adressée au roi de la première édition d'Armide, Lully se lamente, malgré le succès public de son opéra. « C'est de tous les ouvrages que j'ai faits, écrit-il, celui que j'estime le moins heureux, puisqu'il n'a pas encore eu l'avantage de paraître devant votre majesté. Vos ordres, sire, m'ont engagé d'y travailler avec soin et avec empressement. Un mal dangereux dont j'ai été surpris n'a pas été capable d'interrompre mon travail. Et le désir ardent que j'avais de l'achever dans le temps que votre majesté le souhaitait m'a fait oublier le péril où j'étais exposée et m'a touché plus vivement que les plus violentes douleurs que j'ai souffertes. Mais que me sert-il, sire, d'avoir fait tant d'efforts pour me hâter de vous offrir ces nouveaux concerts ? Votre majesté ne s'est pas trouvée en état de les entendre. Et elle n'en a voulu prendre d'autre plaisir que celui de les faire servir au divertissement de ses peuples. J'avouerai que les louanges de tout Paris ne me suffisent pas. Ce n'est qu'à vous, sire, que je veux consacrer toutes les productions de mon génie. Je ne puis aspirer à un moindre prix qu'à la gloire de vous plaire. Et sans l'approbation de votre majesté, je compte pour rien celle de tout le reste du monde. » Sur le dessin du décor de la dernière scène d'Armide, celle de la destruction du palais de la magicienne, on voit au moins 8 personnages de démons suspendus dans les airs. Et il faut leur ajouter Armide elle-même qui s'envole sur son char pendant que le palais s'écroule grâce à un ingénieux système de pivotement des châssis. Un contemporain écrit « Cela finit par le fracas du palais enchanté que les démons viennent détruire en un instant ». Dans l'émotion que cause une machine, amenée et placée avec un art si unique, la toile tombe. Et l'auditeur, plein de sa passion, qu'on a augmentée jusqu'au dernier moment, ne peut pas ne la point remporter tout entière. Il s'en retourne chez lui, pénétré malgré qu'il en ait, rêveur, chagrin du mécontentement d'Armide. La dernière scène d'Armide de Jean-Baptiste Lully avec Marie-Adeline Henry en Armide, les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Stéphane Desmonts pour le mixage, Claire Lagarde pour la réalisation et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.